Vous écoutez en balado-diffusion le premier volet de la série Dialogue. Imaginez les voies de la réconciliation et les avenues du dialogue social. Présenté par la chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes. Quatrième épisode, conférence de Jane Jensen. Vivre ses pluralismes, les Québécois dans les espaces multiples.
Merci beaucoup, Alain, pour l'invitation. Je vais commencer peut-être avec un peu d'état d'âme, parce que j'ai trouvé très difficile le positionnement de mes propos pour cette intervention. Lorsque Alain m'avait contacté au printemps, c'était clair que je parlerais de les anglophones au Québec, les anglo-québécois, etc. Le CBC venait de sortir les résultats de ses sondages qui démontraient les éléments d'intégration, etc., etc. Donc, je voulais parler de ça. Et il me semblait que ça, c'était une bonne piste pour moi, en tant qu'anglo-québécoise, etc., etc. Et puis, je dois dire que j'étais pas mal déstabilisée par les événements de cet automne. Et lorsque j'ai essayé de me positionner en tant qu'anglo-québécoise pour aujourd'hui, je ne trouvais pas exactement comment faire un crochet à quelque chose. Je me trouvais toujours dans le débat sur la charte. Et puis j'avais donné comme titre dans l'ancien modèle « Vivre ces pluralismes, les Québécois dans les espaces multiples ». Et puis j'ai préparé, et puis ce matin je me suis dit « Il faut ajouter un point d'interrogation après « Vivre ces pluralismes » parce que je pense que c'est vraiment une question si nous sommes capable de le faire. Donc, je vais continuer avec mes états d'âme en faisant mon exposé. Donc, parce que je ne savais pas que dire et comment entrer, j'ai adopté une position très scolaire. Donc, je suis revenue au document d'Alain, de l'invitation, dans lequel il avait identifié quatre principes. Il les a cités ce matin, mais je vais les citer encore, parce que c'était mon point de départ. Et c'était ces principes du départ pour la série Dialogue et aussi pour aujourd'hui. Donc, la société québécoise inscrit et nourrit principalement son pluralisme culturel, identitaire et national à partir de quatre grandes sources. La recherche d'une juste démocratie, la défense du principe de l'égalité entre les peuples, l'enracinement et approfondissement de la solidarité, la quête d'équilibre entre la légalité et la légitimité des projets politiques. Donc je dis, OK, lorsque j'ai reçu le document et lorsque j'ai commencé à préparer pour aujourd'hui, je me suis dit, je m'inscris à ces quatre principe. Il a raison, notre Alain. Il a bien identifié le projet québécois auquel je m'inscris en tant qu'anglo-québécoise et quelqu'un qui soutient l'idée du Québec comme petite nation qui a besoin de certaines actions pour se protéger, etc., etc. Mais en cherchant dans ces quatre principes les événements depuis septembre, je me suis dit, je ne vois pas comment parler de ces quatre. Ma première idée, OK, je vais décomposer les quatre, je vais en parler et je vais démontrer que c'est bien comme ça. Mais j'avais des problèmes à trouver comment le faire. Bon, le troisième, la solidarité, ça ne pose pas de problème. Et ça, c'est peut-être pour la prochaine fois. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, et je t'ai dit, peut-être je serai mieux dans la deuxième. Mais la juste démocratie, je pense que la démocratie n'est pas en question. Donc, c'est pas là ce problème. Mais c'est la défense du principe de l'égalité entre les peuples qui m'a commencé à poser problème. Et en réfléchissant à ça, pendant mes préparations, mais même plus aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est là où on n'est plus. On n'est plus sur ce principe-là. Ce n'est pas qu'on est contre ce principe, ce n'est pas qu'on a abandonné ce principe, c'est juste qu'on n'est plus là. Et donc, je vais faire une réflexion qui va un peu en arrière, un peu dans le, un peu comme Martin Papillon nous a invités à faire en cherchant des leçons. Je vais juste aller un peu en arrière pour regarder le passé et voir où nous sommes maintenant, ou apporter mon petit bout de où nous sommes maintenant. Et je vais le faire autour de la question de la citoyenneté, parce que ça, c'est comme Denis Saint-Martin dit toujours, c'est mon business. Donc, je reste sur les questions de la citoyenneté. Et aussi parce que il y a eu un grand moment pour les étudiants dans la salle, peut-être c'était un peu loin, mais pour d'autres comme Michel Seymour, comme Alain, comme même le jeune qui n'est plus jeune, Martin, c'était l'après 95. Il y a eu le grand débat dont Alain a fait référence ce matin, qui a donné lieu à, entre autres choses, penser la nation québécoise. Et ces débats après 95, donc après le référendum, ça a vraiment confirmé et même construit les quatre principes dont Alain a parlé lorsqu'il a préparé son document. Ces quatre principes ne sont pas le fruit de ce débat, mais ils ont été mis en forme, ils ont été confirmés, les événements ont renforcé cette façon de voir le projet québécois. Et c'était quoi ce débat après 1995? Bon, ça a commencé avant le référendum, évidemment, mais la confirmation de ces principes, par exemple la démocratie, le départ rapide de Jacques Parizeau après la soirée électorale. La porte était fermée derrière lui très, très vite pour un propos qui, en fin du compte, était mal dit, mais ce n'était pas aussi faux que ça. Mais il avait dit d'une façon non acceptable et il a dû partir pour faire venir Lucien Bouchard. Il y avait les débats intellectuels autour de la citoyenneté québécoise. C'était le moment de construire et retravailler ces idées d'une citoyenneté québécoise civique. Donc, il y avait le travail autour de penser la nation québécoise. Il y avait chez les anglophones, ou certains anglophones, peut-être un petit groupe d'anglophones, mais il y avait ce que... vous savez que j'ai dû l'écrire. Conrad Black. Conrad Black nous a nommé le Lamb Lobby, donc les collaborateurs qui n'étaient pas d'accord, mais c'était des anglophones qui cherchaient à mieux comprendre et à faire avancer ces projets. Il y avait le discours de Lucien Bouchard au Théâtre Centaure en mars 1996. Un discours en direction des anglophones de Québec. Donc, tout ça a été ce moment, et c'était un moment, comme j'ai dit, de construction d'une idée de citoyenneté québécoise autour de ces idées de principe de l'égalité entre les peuples, principe de reconnaissance de des différences et des nations. Et nous avons entendu ce matin très brièvement une mention des nations, des trois nations, et puis Gérard Bouchard n'a pas repris ce thème aujourd'hui. Je pense que ça, c'est... Il y a une raison pour laquelle il n'a pas repris ce thème, parce qu'on n'est plus là. Donc, mon analyse après 1995, que j'ai repris pour m'inspirer en cherchant quelque chose à dire, était autour du pluralisme. Et j'espère que ça ne va pas être trop ennuyeux, mais je voudrais parler de, ce, de ces idées-là. Un pluralisme, donc ce que j'ai dit à l'époque, c'était que, c'était pas le seul, mais moi je l'ai dit dans mes propres mots, le pluralisme profond de la société québécoise, ainsi que la position structurelle des Québécois, font que chacun de nous occupe un statut minoritaire dans certains de ces rapports. Chacun de nous navigue entre statut majoritaire et statut minoritaire. Et on peut les donner les exemples. Donc, les Québécois francophones au Québec sont majoritaires, mais au Canada, minoritaires. Les anglophones québécois sont minoritaires au Québec, mais majoritaires au Canada. Les Québécois sont les Québécois francophones sont majoritaires au Québec, mais minoritaires en Amérique du Nord. On a des Québécois francophones qui sont majoritaires parce que francophones, mais issus d'une minorité ethnoculturelle, donc ils ont aussi ce statut de minorité. Donc on peut continuer. Je ne veux pas dire que je ne parle pas des identités fluides ou les identités choisies. C'est pas ça. C'est les positionnements structurels dans lesquels nous vivons. Font que ce positionnement fait que nous sommes à la fois, ou dans un certain moment, majoritaires et à d'autres moments, minoritaires. Pourquoi parler de ça? Parce que il me semble que la navigation que nous devons faire, chacun, nous, dans notre propre activité, cette navigation faisait la force de ce modèle de citoyenneté québécoise civique, faisait la force de ce pluralisme identitaire qui était au centre de ce modèle. Donc, ça faisait la force parce que le pluralisme identitaire construit sur un socle du pluralisme culturel et national, renforçait l'engagement démocratique. La majorité changeant, les minorités changeant, renforçait l'engagement démocratique, la solidarité sociale et une citoyenneté québécoise civique. Donc, c'était le statut d'être à la des fois minoritaire, des fois majoritaire, qui a donné la possibilité d'imaginer ce modèle. Le résultat est une conception de la citoyenneté, de nous, comme un espace de minorités multiples à la recherche d'un vivre ensemble en français. C'était aussi une conception de nous comme un espace de majorité, mais aussi des majorités instables à la recherche d'un vivre ensemble en français. Et il y avait, dans cette conceptualisation de citoyenneté civique, il y avait une certaine célébration de tout ce que cela implique. Et nous avons entendu célébration, je dirais, ce matin, même s'il n'était pas très, très content, il était triste, mais c'était dans les propos de Gérard Bouchard sur l'interculturalisme. Maintenant, deux décennies plus tard, nous ne sommes plus là. Le débat n'est plus là. Et je dirais que le modèle n'est plus pensé de la même façon, malgré les efforts d'Alain de nous dire que c'est les quatre principes. Il y avait des efforts pour le maintenir. Okay, ça, je ne dis pas que c'était disparu. Le rapport Bouchard-Taylor fait partie d'un effort de maintenir. La motion unanime sur la loi 99 du mois dernier, donc l'octobre 2013, et les autres motions autour sur les droits démocratiques des Québécois à décider leur avenir, ça fait partie du modèle parce que c'est un renforcement du système démocratique et l'idée du droit démocratique. Les politiques sociales qui font que le Québec résiste mieux que le rock à la montée des inégalités sociales. Ça fait aussi partie des efforts de maintenir ce modèle. On résiste mieux, on ne résiste pas à 100%, mais on résiste mieux. Mais l'effort contre-courant développe aussi, et c'est là où on a discuté ces contre-courants ce matin, mais ces contre-courants n'ont pas commencé ce septembre. Oui, ce n'est pas le produit de le projet d'aujourd'hui et l'annonce de septembre, ça a commencé quelque part au milieu des années 2000. Et on peut prendre comme marqueur la loi 195 que Mme Marois a déposée en 2007. Le projet de loi qui était, elle était dans l'opposition, le PQ était dans l'opposition, donc c'était un projet de loi déposé mais non retenu. Et j'ai relu ce projet de loi. Auquel je dois dire que je n'ai pas porté suffisamment attention à l'époque. Je sais qu'il y avait une mobilisation à l'époque, mais certainement, pour les anglophones, on n'était pas visé nécessairement trop, donc ça passait un peu sous le radar, et ça, je dirais que c'était une erreur fondamentale, mais ça s'était passé comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans le projet de loi? Il y avait renforcement de plusieurs éléments qui sont en continuité, donc renforcement de l'importance du français, connaissance ainsi que qualité. Parfait. Confirmation de l'égalité homme-femme. Parfait, pas de problème. Mais aussi, il y avait l'annonce, pas très claire et pas dans les détails qu'on a vus aujourd'hui, mais il y avait l'annonce de la laïcité, mais aussi la culture québécoise, le patrimoine culturel, etc., sans beaucoup de définitions très claires de ce que ça veut dire. Ce que nous avons eu récemment, c'est une définition plus détaillée de tout ce que ces mots veulent dire. Mais à la même époque, il y avait certaines définitions de ce que ça veut dire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question à Gérard Bouchard ce matin sur le livre de Jean-François Lisée, parce que le livre est sorti au même moment. Et d'après, moi, je ne suis pas à l'intérieur de toute cette vie politique, mais d'après ce que Le Devoir et les autres journalistes me disent, Jean-François Lisée a joué un rôle à côté de Mme Marois, donc on peut imaginer que son ouvrage « Nous » n'était pas concrètement séparé du projet de loi. Okay? Et qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit que le Québec doit entrer dans ce qu'il a appelé un moment majoritaire. Fini ces concessions aux minorités, on a fait déjà suffisamment, c'est le moment majoritaire. Et il faut réhabiliter une nation franco-québécoise ébranlée par ses rapports avec les minorités. Quel était le modèle qu'il voulait suivre? Bon, il avait quelques éléments, je pense, qui méritent d'être mentionnés, surtout parce que je vais les utiliser plus tard. Mais il avait adapté il avait parlé d'un concept qui n'a rien à voir avec les rapports entre majorité et minorité nécessairement, mais l'idée de tipping point, l'idée qu'il y a un point où on dépasse le glissement est inévitable. Donc, on est là, c'est équilibré, et puis paf, on dépasse trop et on glisse vers quelque chose. Cette idée de tipping point est importante. Et aussi, il a fait appel au débat européen sur l'immigration. Et je suis d'accord avec Gérard Bouchard et Sherry que ces débats sont intéressants à suivre, mais ils ne sont pas nos débats, mais il les a évoqués pour construire son argument. Et puis, il a parlé de l'importance de la tradition chrétienne pour la nation québécoise, même si on n'est pas pratiquante. Donc, ça fait partie de l'héritage et du patrimoine, cette tradition chrétienne. Et j'ai une citation aussi, mais à propos de ça, mais si l'on enlève ce nous de la nation disparaît. Donc, c'est vraiment au centre de cette tradition chrétienne. OK, pourquoi est-ce qu'il y avait cette réflexion au milieu des années 2000? Bon, évidemment, c'était justifié à l'époque par l'idée de malaise identitaire, un questionnement identitaire. Et je ne veux pas dire que ça n'existait pas, un malaise identitaire. Je ne prends pas position sur si c'était vraiment sérieux ou si c'était une petite affaire, si c'était encouragé ou incité, ou si c'était profond. Parce que je voudrais parler d'un autre élément qui, à mon avis, est plus important qu'on avait dit aujourd'hui. C'est la crise politique. Je suis politologue, donc je dois parler de politique. Il me semble qu'il y a une crise politique non digérée qui joue dans ce changement qui a commencé dans ces années-là et qui continue aujourd'hui. Mais il faut le prendre en compte. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Premièrement, il ne faut pas oublier qu'il y avait la montée et le choc de la montée de Mario Dumont de l'ADQ. Pourquoi c'était important? C'était important parce que ça a permis l'institutionnalisation d'un espace, je vais l'appeler espace anti-immigrant, dans le discours politique québécois. Il est devenu légitime d'en parler, de dire que peut-être qu'il y en a trop, peut-être non seulement anti-immigrant, mais aussi un questionnement de la diversité. Cet espace a été ouvert par l'institutionnalisation, par le biais de politique partisane et donner en partie la possibilité d'en parler de façon tout à fait légitime. Et puis, bon, Mario Dumont a été suivi par François Legault et le CAQ. Donc, il y a là, ça c'est un défi politique pour le Parti québécois. Il y avait une montée, c'est aussi pour les libéraux, mais je parle ici du PQ. Il y avait la montée d'une position centriste et de droite à l'intérieur du PQ, un déclin de la sociodémocratie, la tendance sociodémocrate au parti. C'était pas un remplacement à 100%, certainement pas, mais il y avait ce rééquilibrage au sein du parti. Et puis il y avait l'exemple du voisin Harper, qui utilise avec beaucoup d'effet une politique de wedge issues. Jocelyn McClure a déjà parlé de ça, mais je pense que Harper n'a pas inventé non plus cette façon de se positionner, mais ça donne des exemples de réussite, ça donne des exemples du succès, ça donne des exemples de comment le faire. Si on cherche à travailler d'une façon partisane une situation difficile. Donc, on quitte le consensus pour aller vers une autre stratégie. Et donc, il me semble que ces trois facteurs politiques sont importants pour comprendre ce changement. Et le fait que, pour moi, ça m'a aidé à comprendre mieux pourquoi j'avais tellement de difficultés à construire quelque chose à dire aujourd'hui. Le discours a beaucoup changé. On n'est plus sur l'idée de « toi peuple, toi nation ». Pour la première fois de ma vie, la question linguistique n'était pas la question à traiter. La question constitutionnelle n'était pas la question. Il y a une question constitutionnelle, mais ce n'était pas au cœur de l'affaire. Mais question de la fin, et je termine ici. Je veux proposer que nous avons vécu dans les presque 10 dernières années une perte de confiance dans le pluralisme identitaire et culturel et une réduction de l'enthousiasme, si on peut parler comme ça, une réduction de l'enthousiasme pour la reconnaissance des statuts de minorité multiples, de travailler et retravailler le fait que nous sommes des fois majoritaires, des fois minoritaires. Ça, cette façon de faire ne se fait plus. Et on peut poser la question suite à ça, c'est mon propos, mon constat. Mes questions qui arrivent suite à ça sont les suivantes. Il y a deux grandes questions. Première question, s'agit-il vraiment d'un tipping point ou dans le vocabulaire de Jean-François Lisée ou un changement du paradigme dans le vocabulaire de Gérard Bouchard? S'agit-il de l'introduction d'un clivage? Un clivage, c'est quelque chose qu'on coupe. Hein? Un clivage, c'est difficile à fermer. Et dès que ça soit là, c'est difficile à le fermer. Est-ce qu'on voit une institutionnalisation même plus importante de cet espace discursif sur les soit anti-immigrants, soit anti-islam. Ça, c'est la question. Est-ce que c'est ça? Sommes-nous devant une situation de ce genre? Ou sommes-nous devant un moment politique dans une histoire plus stable? Je dis politique entre guillemets, parce que pour les politologues, tout est politique. Donc, sommes-nous dans un moment partisan, dans une histoire qui est plus stable, dans une histoire dans laquelle les quatre principes sont toujours bien enracinés? Si c'est un moment politique ou partisan, normalement, ça va répondre au traitement standard. C'est quoi le traitement standard? C'est l'action politique, mobilisation politique, attention au dialogue démocratique, débat démocratique. Franchement, je n'ai pas la réponse. Il me semble que c'est au moins deux possibilités, mais je ne sais pas si nous sommes devant une situation tout à fait nouvelle ou si nous sommes dans un moment où, si, comme dans le passé, pour répondre à la question de Martin, comme dans le passé, il y a une mobilisation forte, il y a une action forte, il y a une attention au débat, on peut revenir à une situation de consensus autour de quelques principes, peut-être pas les mêmes quatre que tu as nommés, mais un certain consensus.
Merci beaucoup.